Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Oui, bonjour. Marcher tout seul ou marcher en groupe? C'est ça, c'est important de marcher en groupe. Pour la santé tout seul ou en groupe, en tout cas. Fait que, tu sais, il ne faut pas être seul complètement. Fait que mon nom, c'est Claude Saint-Jean. Merci beaucoup d'être là. Bienvenue à cette émission qui s'appelle À nous le futur. Ça veut dire à vous le futur, vous les jeunes là, qui venez d'arriver, qui avez 20 ans, hein, qui êtes en première année du bac. Mon but est de vous encourager pour aller au-delà de l'éco-anxiété, pour aller dans la transition énergétique viable. Alors, dans 26 ans, en 2050, il y aura assez de nourriture pour tout le monde, souhaitons-le, et assez d'énergie pour tout le monde. Alors, vous aurez 46 ans. Alors, ce sera votre tour de souhaiter à la prochaine génération de 1950 à 2050 à 2070 de consolider le beau futur qu'on est en train de construire. Fait qu'on va arrêter là. Pour l'instant, je vais souhaiter la bienvenue, c'est-à-dire au professeur Pierre Jasmin, qui est secrétaire des APLP, les Artistes pour la paix, parce que la première chronique de 15 minutes, c'est pour environ 5 chroniques, c'est les Artistes pour la paix, qui seront suivis de Rêve nourricier et qui sera suivi du professeur Cornette, un professeur qui fait le lien entre la culture, la religion et la politique, qui va nous parler des élections aux États-Unis. Dans une deuxième chronique, il y aura les Premières Nations. Je vous parlerai des 11 Premières Nations durant ce premier semestre. Finalement, je vous parlerai d'un dossier social durant chacune des 16 émissions. Là. Et finalement, en dernier 5 minutes, je vous tenterai de vous donner des bonnes nouvelles et vous parler de quelques livres importants. Alors, sans plus tarder, on passe à professeur Pierre Jasmin des Artistes pour la paix. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission À nous le futur. Mon nom est Claude Saint-Jean. J'ai le plaisir d'être ici avec le professeur Pierre Jasmin. J'ai un peu de biographie aussi. Il est diplômé d'institutions supérieures de 6 pays, l'Angleterre, le Canada, les États-Unis, la France. Je sais qu'il y a le Moscou là-dedans, oui. La Russie.
Et surtout l'Autriche, où d'accord. J'ai passé 4 ans.
Et puis, vous avez été enseignant au cégep Vanier de l'Université Queen's aussi et professeur titulaire à l'Université du Québec. Puis, devant 2 maîtres d'Hiroshima et président des maires pour la paix, vous avez fait des récitals qui soulignent les 50e anniversaire de l'Hécatombe et de la Fondation. Vous avez été aussi à la Fondation des conférences Pogouache sur la science et les problèmes internationaux.
Oui, c'est 2 dates différentes. Oui. Donc, oui. Et 2 maires différents, oui. À ce moment-là. L'autre maire était venu au Canada pour participer à cette fête du 50e anniversaire de Pogouache, qui est, une fête, tandis que l'autre, évidemment, c'est une triste commémoration. Oui.
D'accord. Vous avez écrit le livre « Notes d'espoir d'un joueur de piano ». Et puis, vous avez composé une musique pour le poème de Gaston Miron, « Compagnon des Amériques ». Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce poème-là particulièrement?
Ben, je connaissais Gaston Miron, avec qui on prenait des marches de l'UQAM jusqu'à sa maison au Carré-Saint-Louis. Et j'étais vraiment très sensible à sa poésie engagée, quoi. Mm-hmm. Voilà.
Et puis dans votre biographie, le dernier point que je vois que vous avez assisté en 2016 au Forum social mondial. Mm-hmm. Et puis moi, dans un livre de Jean Ziegler, j'ai vu que ça lui donne de l'espoir. Fait que c'est le fun. Donc, fin de la biographie. Il y a à peu près 4 autres pages. On pourrait passer plusieurs émissions là-dessus. Félicitations pour tout ça. Monsieur Duguay, Raoul Duguay, que j'ai vu en fin de semaine à la Grande Nuit de la Poésie, et qui a cofondé les, art-
artiste pour la paix il y a 30 ans, ou 40, mais 30.
Il y a 41 maintenant, oui.
D'accord. Et aussi, il a cofondé Au Secours, qui a été dirigé un petit peu par Martine Ouellet, qui sera interviewé plus tard ici. Fait que j'ai relevé quelques phrases poétiques qu'il disait. Je rêve d'un jour où dans le dictionnaire, on ne trouvera plus le mot guerre qui crée la misère. Je rêve d'un temps où les cœurs seraient ouverts, où personne ne prendrait les armes. Voir enfin venir le temps de récolter la paix et notre rêve. Puis dans le cœur brisé de mes notes, replanter des espérances. Finalement, il dit que depuis que le monde est monde, il n'y a pas eu 100 jours sans guerre. Fait que ceci étant dit, on peut parler de Gaza. Je pense que ça vous tient à cœur et c'est urgent d'en parler.
Oui, et c'est surtout essentiel d'en parler parce que les médias font beaucoup de censure sur ce sujet-là. Et les artistes pour la peine, dans le fond, sont mus par une sorte de solidarité, mais c'est pas une solidarité politique. On nous dit, ben, vous êtes pro-palestinien, donc anti-israélien. Et tout le monde a faux quand il résume, dans le fond, un engagement qui est mu simplement par le fait que c'est impossible qu'on ait en 10 mois et demi plus de 40 000 morts, dont 20 000 enfants, 20 000 femmes. Bon, il y a des gens qui vont dire qu'en Afrique, au Soudan, il se passe aussi un génocide, mais là, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. C'est deux généraux qui représentent chacun des factions d'un pays, et c'est à peu près insoluble, à moins que une puissance étrangère, dominatrice, les assoit de force l'un avec l'autre, mais ils sont déjà assis de force. Et malgré tout, le massacre continue. Tandis que dans le cas de Gaza, c'est vraiment un massacre injustifiable et dans lequel nous sommes complices, nous, Canadiens, ou surtout nous, Nord-Américains, parce que, évidemment, Israël ne tiendrait pas une semaine s'il n'y avait pas derrière les armes super sophistiquées des États-Unis qui leur permettent, par exemple, de faire ce qu'ils ont fait il y a deux semaines, d'atteindre une cible individuelle en Iran ou une autre cible individuelle au Liban, au Hezbollah. Et actuellement, je fais partie aussi d'un groupe qui s'appelle l'Agora des habitants de la Terre, et on est absolument indigné, et on est en train de publier un texte là, contre toute guerre. Donc, il ne s'agit pas d'un engagement politique, mais d'un engagement humanitaire. Et c'est une différence qui me semble essentielle de faire. Et il y a tout ça, ce qui m'inquiète beaucoup, dans le fond, c'est l'évolution de notre monde médiatique, entre autres, qui est capable de nier des événements aussi dramatiques qui se passent, aussi dévastateurs. Et ça, ça remonte un peu, dans le fond, à ce qu'on avait travaillé avec Peter Wintonik et notre cinéaste, Marc Achbar, qui avait publié un documentaire de l'Office national du film, donc, et qui s'appelait... attendez, je ne me souviens plus. C'était un film sur Noam Chomsky, dans le fond, qui montrait les nouvelles du New York Times à propos du Timor oriental, où il se passait un massacre par les Américains, par les Indonésiens, mais armés, encore une fois, et excusés par les Américains qui essayaient de ne pas montrer ce carnage qui était fait. Et ce film, les réalisateurs m'avaient demandé d'en faire un peu la publicité en faisant le tour des médias, parce qu'ils savaient qu'à ce moment-là, les artistes pour la paix jouissaient d'une crédibilité et d'un sens plutôt irréprochable de pas accuser à tort les points. Et on avait été reçus donc par différentes radios communautaires et moins par, bien sûr, déjà par les médias mainstream. Et c'est, et finalement, le documentaire a brisé tous les records de l'Office national du film parce que c'était systématique de montrer à quel point les médias mentaient. En plus, on a eu le soutien de Pierre Foglia et à ce moment-là, il allait bientôt démissionner de la presse pour se murer dans un silence complet depuis. Et c'est un des rares journalistes qui disait la vérité, un peu comme... Je ne sais pas si vous avez vu dans les nouvelles la mort de Phil Donahue, ce grand journaliste de la télévision américaine, le dimanche dernier. Et Phil Donahue, à partir du moment où il a dit que l'invasion de l'Irak par les États-Unis était une opération qui fait 200 000 morts à peu près, et c'était absolument injustifiable, d'autant plus que l'ONU avait bien montré que l'Irak de Saddam Hussein n'avait pas d'armes de destruction massive, ouais. Ni nucléaire, ni biologique, ni autre. Et à partir du moment où il a dit la vérité, il a été barré des médias américains, alors qu'il jouissait d'une très grande crédibilité. C'était un ami personnel de Michael Moore, le cinéaste, qui montrait aussi les choses telles qu'elles étaient. Donc, il y a cette dégradation médiatique. Et puis, alors que, comme dit Caitlin Johnston, une amie du journaliste Assange, le journaliste australien, les gens qui croient encore que les médias leur disent la vérité, que leur nation et leur monde fonctionnent à peu près de la même manière qu'on leur a appris à l'école, ont subi un lavage de cerveau et sont tout aussi trompés que n'importe quel conspirationniste QAnon. La seule différence est que leurs délires sont beaucoup plus largement partagés et que les mécanismes utilisés pour leur laver le cerveau sont beaucoup plus coûteux et sophistiqués. La vision dominante du monde n'est en réalité qu'une psychose artificielle produite en masse. Il est en effet difficile de comprendre l'ampleur et l'omniprésence de la montagne de mensonges sur laquelle cette civilisation, la nôtre, dystopique, est construite. Vous pensez que vous commencez à comprendre les choses, puis en acquérant plus de connaissances et de perspicacité, vous réalisez que cela va bien plus loin que vous ne le pensiez. Vous commencez à tirer sur un fil, peut-être un mensonge évident sur l'Irak ou la Palestine ou autre, et le tout ne cesse de s'effilocher, avant de vous en rendre compte. Vous observez une société qui n'est pas seulement criblée de mensonges, mais qui est en vérité entièrement basée de mensonges. Fin de la citation de Caitlin Johnston.
Que vous extrayez d'un article que vous avez écrit et publié dans Les Artistes pour la paix, votre site Internet.
Non, il n'a pas été publié parce que le moment où notre webmestre malade et incapable de fournir la cadence d'articles, je lui soumettais.
Oui, voilà. Parce que j'ai vu que, par ailleurs que vous en avez écrit des centaines d'articles.
Ben oui, il y a toutes sortes de choses. Je pense un article qui montre cette supercherie aussi, c'est la semaine dernière quand il y a eu la cérémonie en souvenir de Nagasaki, donc le 9 août, les gens de Nagasaki ont dit on n'invitera pas Israël parce qu'Israël est en plein action de génocide, en train de tuer 40 000 personnes et plus. Et voilà. Et tout à coup, les ambassadeurs irréprochables, n'est-ce pas, du Canada, des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, etc., ont dit on va boycotter la cérémonie puisque vous n'avez pas invité Israël. Ils n'avaient pas invité non plus la Russie, mais ça ne les dérangeait pas, eux autres. Mais qu'ils n'aient pas invité Israël, ça, c'était pour protester. C'est incroyablement irrespectueux, oui. Comme dit Michael Bucket, qui est vice-président des Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient. Il dit c'est un geste incroyable, irrespectueux à l'égard des victimes civiles de la guerre du Japon et de Gaza. Mm-hmm. Et on ne parle pas d'armée de Hamas, on parle des victimes civiles.
Oui. Il y a toutes sortes de littératies à apprendre.
entre autres, la littératie de faire la différence entre l'islamophobie et puis contre les juifs aussi. Il faut vraiment
l'antisémitisme, oui, il faut faire les deux. Moi, j'ai écrit plusieurs articles sur des films qui sont courageusement, qui dénoncent la Shoah, puis de façon artistique exemplaire. Deux récemment, donc il y a quelques mois. Donc, ça n'a rien à voir avec justement le respect qu'on doit aux victimes de la Shoah pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est totale et qu'il faut empêcher des conspirationnistes qui disent que non, il n'y a pas eu un massacre de tant de Juifs. Il y a eu aussi un massacre, et ça, personne n'en parle, de la société civile russe, de à peu près 23 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est eux qui ont subi le plus grand... la plus grande souffrance, dans le fond, de l'invasion hitlérienne. Et c'est pour ça qu'ils étaient extrêmement inquiets par rapport quand l'Ukraine devenait de plus en plus hostile. Et pensaient même devenir membre de l'OTAN et pensaient même... dans le fond, encourageait des factions nazies qui bombardaient le Donbass, la région de l'Est. Alors, voilà, c'est un but des artistes pour la paix, dans le fond, d'essayer de dénoncer des choses, peu importe de quel angle politique on est. Quoi. Ouais, on a écrit une lettre qu'on peut trouver sur notre site à l'ambassadeur russe qui a été signée par une centaine de personnes et plus, dont Richard Séguin, bien sûr, notre président d'honneur et bien d'autres. Mais aussi, on a écrit il y a maintenant un an, qu'il y avait un an et demi de bombardement de l'Ukraine qui était en train de perdre toute sa jeunesse. Et, c'était un dernier article qui n'est pas encore publié, mais qui est pris à Presenza, qui montre que le journaliste se promène dans les rues de l'Ukraine et il voit dans les toilettes des queues pour les toilettes des femmes. Pour les toilettes des hommes, rien. Bon, c'est sûr qu'il y a, il y a une différence naturelle, mais à ce point-là, il dit, voilà, ça montre à quel point cette société-là est vidée de tous ces hommes en âge de faire la guerre et qui sont envoyés au front d'une façon horrible et tout ça au profit des Américains qui veulent, dans le fond, user le pouvoir russe.
Ça touche la différence entre le féminisme et la condition masculine, parce que, en tout cas, il y a un gros parce que. Mais, hier, tout à l'heure, j'ai fait un lapsus me souvenant de Barack Obama, hier soir, qui a dit, trois, quatre mots qui m'ont réveillé un peu, « L'Amérique, artisan de la paix ». Il souhaite ça, t'sais. Fait que moi, j'ai saisi une différence entre artisan et artiste, dans le sens que artisan, c'est promouvoir et construire la paix. Les artistes pour la paix font beaucoup, comme vous venez de le dire, dénoncer. C'est bien de dénoncer, il faut être ouvert, mais je pense qu'il faut aussi donner un pourcentage d'énergie à construire la paix. Comment vous voyez ça?
Ben oui, c'est ce qu'on fait aussi. Okay. Quand on envoie une lettre de 50 pages au ministère de la Défense pour dire, par exemple, ne bâtissez pas des F-35, qui sont des avions d'attaque. Bâtissez, ça c'était en 2016, l'été 2016, bâtissez plutôt des Canadair, ces avions pour éteindre des feux de forêt, pas seulement pour le Canada qui en aura besoin, puisqu'on est tous, on connaît tous ce qui se passe au niveau climatique, et je pense que l'ONU et le montre très clairement par le GIEC, par les COP et tout ça. Donc, on connaît tout ça et en bâtissant ces avions pour éteindre des feux, on pourra même les donner à différents pays qui en auront besoin. Et on voit la Grèce qui est le pays le plus coupable de dépenses militaires. Ils ont dépensé jusqu'à 4% du PIB pour des avions puis des produits militaires parce qu'ils avaient peur de la Turquie. Et parce qu'il y avait un Mikis Theodorakis qui s'opposait à ça et qui leur disait, qui a changé de parti trois fois pour dire on n'ira nulle part comme pays si on continue à construire des trucs militaires. militaire qui... Et pendant ce temps-là, ben, voilà, les feux de forêt de cet été ou de l'été dernier menacent Athènes, menacent Marathon, menacent les plus grandes villes. Mm-hmm. Voilà. Et ça, c'est une chose peut-être qui nous distingue de certains autres organismes, c'est que nous écrivons des lettres très documentées constamment à notre ministre des Affaires extérieures et étrangères, Mélanie Joly, ou à notre ministre de la Défense, ou bien sûr à Mme Saint-Onge, qui est la ministre aussi, qui est plus proche des artistes par ses fonctions.
Bon, c'est le fun, l'exemple que vous avez donné, moins construire de F-18, plus d'avions pour éteindre la forêt. Ici, j'ai apporté un livre de Seymour Mellman, un ingénieur industriel décédé, mais il a écrit beaucoup, au moins 20 livres sur la conversion de l'industrie militaire et de l'industrie civile. Là, je vois Disarmament, ça me fait penser à votre publicité des artistes pour la paix, le pamphlet.
Soyons désarmants. Mais la conversion des dépenses militaires. On en parlait avec Lise Bacon, qui était l'adjointe de Robert Bourassa il y a 40 ans. Donc, c'est quelque chose qu'on a toujours poussé aussi, oui.
Oui, c'est bien. Mais ici, au Québec, il n'est pas assez connu, c'est Seymour Mellman. Il n'est pas enseigné dans les universités. Pour savoir comment faire la conversion, il ne faut pas seulement le vouloir, mais il faut savoir comment. Puis lui, il enseigne dans ce sens-là aussi. Bon, puis vous avez dit Lise Bacon, moi j'ai pensé à Joséphine Bacon qui était à la Grande Nuit de la Poésie.
Oui, ben, c'est quelqu'un d'autre, oui. Bon. C'est une grande poète que j'ai connue grâce à, comment s'appelle-t-elle, la chanteuse métisse qui était la compagne de Gilles Carle.
Ah oui, moi, je m'en souviens, mais moi aussi le nom.
Oui, mais ça c'est le vieil âge, excuse-moi. Excuse-moi, Claude.
OK, apparemment on peut se rendre jusqu'à 150 ans si le médecin français Christophe de Jaeger nous enseigne comment le faire. En tout cas, fait que Gaza, émotionnellement, il y a une sorte d'impuissance émotionnelle. Est-ce que moi je me sens attaqué dans ce sens-là, difficile à décrire. Et puis, des jeunes enfants de 8 ans à la Grande Nuit de la Poésie parlaient de l'écologie puis de l'anxiété. Comment les encourager, ces enfants-là?
Bien, en ne faisant pas ce genre de choses-là, en engueulant le gouvernement qui permet ces choses-là, ou en lisant notre poète Rita Amabili, c'est dans un de nos derniers articles, qui est intitulé, son poème est intitulé « Ne tuez pas les enfants ». Et je le fais, je le distribue dans différents pays aussi, et c'est de faire en sorte que c'est pas en cachant les vérités aux enfants qu'on va les protéger. C'est vraiment en les informant au maximum et en leur permettant de protester quand il y a une raison valable de protester. Mmh. Et ça, c'est une raison plus que valable. C'est une raison incontournable, je pense.
Oui, je suis d'accord avec ça. Cette émission-là a pour but d'encourager, mais aussi de dire la vérité. Fait que nous avons déjà atteint la limite de temps de cette émission.
Ah oui, déjà.
Alors, professeur Jasmin, je vous remercie beaucoup. Et on se revoit entre 5 et 15 fois. C'est pas encore décidé, parce que nous sommes en pré-enregistrement aujourd'hui. L'émission recommence le 5 septembre. Et merci et à la prochaine.
À votre disponibilité, cher Claude.
C'est gentil. Merci beaucoup.
Alors, ici Claude pour À nous le futur. Merci beaucoup au professeur Jasmin. Monsieur Jasmin m'avait demandé de vous lire un court texte qu'il avait oublié de dire pendant l'émission. Alors je le fais avec plaisir. Ça se lit ainsi. Le professeur titulaire retraité de l'Université du Québec à Montréal a réussi à convaincre son syndicat des professeurs et professeures à mettre toute leur pression pour faire en sorte que le campement d'étudiants antigénocidaires puissent lever le camp après avoir persuadé le recteur d'être complètement transparent pour que la fondation de l'UQAM exclue tout investissement militaire ou technologique sensible dans tout échange avec Israël. Malgré deux lettres directes au recteur, le professeur Jasmin n'a hélas pas réussi à McGill, université dont il a gradué avec la médaille d'or du ministre de l'Éducation. Enfin, il a écrit à nos étudiants de l'Université de Sherbrooke pour les féliciter d'exprimer au nom de toute la population leur indignation face au génocide, ce qu'ils ont réussi admirablement pendant tout un mois. Merci de respecter les... bon, c'est ça, de l'intégralité du message, je l'ai fait. Et puis, comme nouvelle triste et encourageante à la fois, des étudiants de l'Université de Sherbrooke en faveur d'une grève pour la Palestine. Ça, c'est le 4 septembre que ça a été publié dans la Tribune. Il me reste un dernier point pour les artistes pour la paix. Le professeur Jasmin m'a demandé de vous donner le lien Internet. C'est http://www.artistespourlapaix.org. C'est le tour à la publicité. Désolé si Claude, ça ne joue pas fort à la publicité. En tout cas, je vais essayer de régler ça avec la radio. Maintenant, on passe à une autre entrevue avec Martine Ouellette, que j'ai faite il y a quelques minutes. Elle est chef de Climat Québec. Et puis, elle nous fait prendre conscience du vol de notre bien commun. Fait que, Madame Ouellette, à vous.
Oui.
Alors, bonjour Madame Ouellette. Vous êtes chef du nouveau parti politique Climat Québec. Vous avez été chef du Bloc québécois. Vous avez été ministre des Affaires naturelles, des ressources naturelles.
Des ressources naturelles, c'est ça, oui, exact.
Et directrice de Haut Secours, entre autres. Là.
En fait, j'étais bénévole. Là. J'étais présidente et longtemps, pendant une dizaine d'années, porte-parole aussi pour Haut Secours.
D'accord.
Donc, on n'avait pas de direction générale à l'époque. Là.
D'accord. Haut Secours qui a été commencé par Raoul Duguay, je crois.
Oui, Raoul Duguay a été un porteur d'eau très important, mais qui a été fondé lors de la volonté de privatiser l'eau à Montréal, là, donc par quatre fondateurs là, issus du milieu municipal, syndical, scientifique et artistique.
OK. Est-ce que M. Sabat est encore dans cette histoire-là de privatisation de l'eau?
Si, pardon, la question
Monsieur Sabat, c'est tout ça son nom, Sabat?
C'est bien.
C'est bien. Ça commence mal. Oui, c'est ça.
Oui, okay. Il n'y a pas de souci. On ne parle plus tellement actuellement de la question de la privatisation, là, de la gestion de l'eau municipale, mais Monsieur Sébia est plus dans la privatisation, et malheureusement, là, dans la privatisation de l'électricité, que j'appelle une privatisation sournoise là, par la porte d'en arrière, parce qu'il a un discours qui est contraire à ce qu'il fait, malheureusement. Donc, oui, c'est très, très inquiétant. M. Lesage et M. Lévesque doivent vraiment se retourner dans leur tombe.
Oui, d'accord. C'est justement le sujet de la discussion d'aujourd'hui, d'environ 15 minutes, là. La privatisation du bien commun, et plus spécifiquement d'Hydro-Québec, qui se fait à la cachette par le projet de loi 69 en ce moment, et en détail, hein. C'est pas tout d'un coup, mais c'est en petits morceaux. Là. C'est pour ça que personne ne s'en aperçoit, sauf vous. Alors, félicitations et merci. Donc, il se passe une privatisation d'Hydro-Québec, n'est-ce pas?
Oui, bien c'est ça. C'est une privatisation de l'électricité parce que normalement, Hydro-Québec aurait dû être propriétaire et gestionnaire de l'ensemble de la production d'électricité au Québec, sauf là, des exceptions là, lors de la nationalisation de deux compagnies, grosso modo, là, qui étaient Alcan et Résoline Papetière à l'époque. Donc, deux exceptions spécifiques. Et là, la privatisation a commencé en douce avec Lucien Bouchard, avec l'éolien. L'éolien, qui est une source d'énergie qui peut être intéressante, même si elle est intermittente, mais là, malheureusement, elle a été donnée au privé. Prétextant qu'Hydro-Québec n'avait pas l'expertise, qui est totalement faux parce que c'est de la dynamique des fluides. Donc, que ce soit de l'eau qui passe dans une turbine ou de l'air qui passe dans des pales, c'est la même expertise et même c'est beaucoup plus complexe les turbines. Donc, Hydro-Québec avait tout à fait l'expertise, une des meilleures expertises mondiales d'ailleurs, mais c'était juste un prétexte pour privatiser. Et ce sont des compagnies qui n'avaient aucune expertise dans ça, qui ont eu des contrats, que ce soit Gaz Métro, Boralex et même EDF en France. Il faut savoir qu'en arrière de ça, que ce soit Gaz Métro ou EDF, on a Power Corporation qui est impliqué dans ces deux compagnies-là en particulier. Donc, privatisation de l'éolien depuis 1998, et là, on a un rapport de l'Institut de recherche en économie contemporaine qui nous confirme que ça a coûté aux contribuables, au bas mot, là, minimum 6 milliards de dollars parce qu'on a payé trop cher pour l'électricité en voulant faire autant d'éolien. Donc là, le projet de loi 69 confirme cette orientation-là et même en plus privatise par l'actionnariat. Veut tranquillement enfermer Hydro-Québec dans une logique du privé en mettant Hydro-Québec comme partenaire dans une nouvelle coquille avec des privés. Donc, ce ne sera pas Hydro-Québec avec une philosophie de bien commun qui pourra gérer, mais cette nouvelle coquille-là, dont Hydro-Québec ne sera qu'un des actionnaires, même pas nécessairement majoritaire. Donc, se servir du nom d'Hydro-Québec pour faire semblant que c'est encore le bien commun, mais privatiser sournoisement par la porte d'en arrière.
Mm-hmm. Mine de rien, c'est un gouvernement agressif, affairiste, qui veut tout privatiser. Est-ce qu'il y a moyen de s'opposer à ça? Il faut d'abord bien s'informer. On commence à le faire ici, mais 15 minutes, c'est pas assez, là. Est-ce que vous avez des documents qui synthétisent, par exemple, dans le placoteux, il y a Martine Ouellet, vilipende le ministre Fitzgibbon, ou bien dans Climat Québec, je vois un communiqué, la CAQ doit cesser d'instrumentaliser la transition énergétique pour favoriser les lobbies. Est-ce que ce document-là est suffisant pour se faire une bonne synthèse pour comprendre?
Bien, c'est sûr que ça prend plusieurs informations parce qu'ils attaquent tout azimut. Donc, toutes les façons possibles et imaginables. Et donc, j'ai fait une entrevue d'une quarantaine de minutes à Point de bascule. Donc, une espèce de podcast que vous pourrez trouver là sur Internet si vous googlez Point de bascule Martine Ouellet. Et donc, ça donne un portrait assez global, précis de tout ce qui est en train de se passer parce que c'est très grave. Et comme effectivement, ils ne font pas ces attaques-là frontalement, c'est sournois, bien, c'est pas facile à démasquer pour des gens qui ne sont pas du milieu. Et ils font beaucoup de désinformation. Comme actuellement, ils nous disent qu'il manque tellement d'électricité pour construire, ce qui justifie des éoliennes, même sur des terres agricoles. Encore hier, j'étais là en conférence à Saint-Césaire. Les gens se demandent pourquoi construire sur des terres agricoles. Bien, l'eau, c'est de décarbonation. Il faut faire notre part. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas du tout pour la décarbonation. C'est pour des appétits, je les appelle de carnivores, les gros consommateurs industriels de la planète, que la CAQ veut attirer ici. Avec plein de subventions déguisées. Donc, ils vont vraiment dans la mauvaise direction. Et les prétextes qu'ils nous disent, c'est de l'éco-blanchiment, c'est de la désinformation. Et c'est malheureux que des personnes, que ce soit François Legault, que ce soit Fitzgibbon, qui savent très bien ce qu'ils font, se permettent comme ça de ne pas être honnêtes avec la population.
Et comment peut-on avoir un débat sur l'énergie? Parce que en parenthèse, moi, j'avais écrit un article en interviewant Mme Lajambe pour la revue Contre-temps du Centre d'analyse des politiques énergétiques. Ça fait 40 ans. Elle demandait un débat sur l'énergie. Et puis là, je revois ça. Là, les gens redemandent un débat sur l'énergie. Mais ça fait, est-ce que vous avez foi que ça pourrait se passer, un vrai débat sur l'énergie?
Bien, c'est ce qu'il devrait y avoir pour qu'on puisse faire un vrai état de la situation avec les différents points de vue puis les différentes informations qui sont pas nécessairement dans la même direction. Mais c'est clair que la CAQ ne veut pas de débat parce que la CAQ prend des décisions pour favoriser ses petits, je vais appeler ça comme ça, ses petits amis affairistes. Donc, des intérêts particuliers, il n'est pas du tout en ligne avec le bien commun. Donc, ça ne se passera pas avec la CAQ. Tant que la CAQ est là, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de résister, de faire du blocage au projet. C'est un peu choquant de mettre autant d'énergie citoyenne juste pour bloquer des projets plutôt que de faire les bonnes choses. Mais ensuite, ces décisions-là sont politiques. Et donc, ce qu'il faut avoir, c'est des élus qui sont là pour le bien commun. Et nous, avec tout un groupe, on a fondé Climat Québec parce qu'on a regardé l'ensemble des partis politiques. Vous savez, j'ai été longtemps, une trentaine d'années au Parti québécois, j'ai côtoyé les autres partis politiques. Et malheureusement, le constat qu'on a fait à plusieurs, c'est que les autres partis politiques sont beaucoup trop affairistes, carriéristes et ont perdu le bien commun de vue. Ils se moulent dans une espèce de comportement pour gagner des élections, qui pensent qu'ils vont leur faire gagner des élections, qui, dans le fond, sont en ligne avec les affairistes. Moi, j'y étais au Parti québécois, et pourtant, le Parti québécois aurait dû être un parti progressiste. Mais malheureusement, l'ensemble des dossiers que j'aurais voulu réaliser pour lesquels j'ai eu des bâtons dans les roues de ma propre première ministre. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'establishment, les gens, c'est encore de la même veine. Donc, j'ai peu confiance. Le Parti libéral, on l'a vu avec Couillard, à quel point là, ils étaient aussi affairistes. Tout ce que la CAQ fait a été commencé par le Parti libéral. Et malheureusement, Québec solidaire, je trouve qu'ils ne se tiennent pas debout devant les lobbies. Puis là, ils sont deuxième opposition. Puis même comme deuxième opposition, ils ne se tiennent pas debout. Fait qu'une fois au pouvoir, les lobbies font beaucoup plus de pression. Fait que s'ils ne tiennent déjà pas debout comme deuxième opposition, que ferait-il s'ils avaient le pouvoir? Donc, nous, on a fondé Climat Québec, un parti qui a le courage de se tenir debout devant les lobbies.
D'accord. Selon vous, est-ce que ça prend une réforme de la démocratie pour arriver à s'opposer à la privatisation du bien commun?
Je ne dirais pas. On peut toujours améliorer les systèmes démocratiques. Il n'y a aucun système de parfait. Puis on l'a vu dans notre histoire, on a eu de très bons gouvernements. Je pense à celui de Jean Lesage, je pense à celui de René Lévesque, la très courte période de Jacques Parizeau. Mais malheureusement, c'est aussi les limites de la démocratie. Ça arrive que les électeurs décident d'élire des gouvernements qui ne sont plus en lien avec le bien commun et qui sont plus affairistes et qui sont plus au service des lobbies. Et là, ben, on a atteint, je dirais, un peu l'apogée là avec la CAQ. Moi, je n'ai jamais vu un gouvernement autant au service des lobbies que la CAQ. Mais c'est ça. C'est les citoyens qui doivent exiger de leurs élus d'être là pour le bien commun. Donc, ça se passe au niveau des élections. L'important, c'est d'aller voter. Le taux de participation a beaucoup chuté depuis une quarantaine d'années. Donc, plus le taux de participation est élevé, bien, plus le gouvernement se sent surveillé. C'est ça le rôle des citoyens, c'est de surveiller. Ils ne peuvent pas penser, dire, bien, je vote, ou même je ne vais pas voter, puis il adviendra que pourra. Mais je sais que les médias ne font pas vraiment leur travail parce qu'ils laissent souvent entendre que c'est du pareil au même. Donc, ils découragent les citoyens de s'impliquer, malheureusement. Donc, on aurait une réforme, je pense, des médias à faire très importante pour encourager les citoyens et encourager la politique, les politiciens à être au service du bien commun et non pas au service des lobbies.
Oui, mais ça tombe bien, c'est justement mon but, d'encourager les jeunes, entre autres, là, bien, c'est à l'université, pour qu'on ait un beau futur. Et puis, par contre, il y a une équipe de recherche, MEDOWS, M-E-A-D-O-W-S, sur la décroissance, oui. Là, qui prévoyait l'effondrement de l'économie en 2030. Et il y a Roméo Bouchard qui m'a rappelé ça récemment. Là, fait que c'est difficile de se tenir la colonne vertébrale droite et optimiste quand on pense que en 2030, tout va s'effondrer. Vous avez un espoir contraire, vous?
Ben oui, des prophètes de malheur, il y en aura toujours, il y en a toujours eu. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut travailler pour que ça aille bien. Il faut se retrousser les manches. Et il y en a plein de beaux projets qu'on peut faire ici au Québec. On a des ressources extraordinaires, une expertise extraordinaire. On pourrait devenir, s'il y avait une volonté politique dans ce sens-là, un des premiers territoires, ou même j'oserais dire pays, parce que nous, on est indépendantistes, sur la planète, à décarboner l'ensemble de son économie en sortant le gaz, premièrement, des bâtiments, des résidences, des commerces, des institutions, des usines. On est capable de faire ça au Québec. C'est pas partout sur la planète actuellement que c'est possible parce qu'ils n'ont pas tous des ressources renouvelables comme nous, l'hydroélectricité. Mais ici, c'est possible. Et après ça, l'autre morceau, c'est du côté des transports. On aurait tout avantage. L'Université de Sherbrooke, d'ailleurs, chapeau pour l'initiative depuis déjà un certain temps qui aurait avantage à être copiée pour le transport en commun gratuit pour les étudiants. D'accord. Donc ça, c'est une façon. Nous, on pense que même le transport en commun devrait être gratuit pour tout le monde si on veut que les gens qu'il y ait moins d'autos sur nos routes, parce que la première solution, c'est moins d'autos sur nos routes. Il faut une alternative intéressante, plus de transports en commun. Si on le met gratuit, c'est un fort incitatif. Donc, je pense que des initiatives comme ça auraient avantage à être poussées beaucoup plus loin. Puis on l'a vu, là, toutes les retombées positives que ça a eu, pas juste du côté des étudiants, mais de l'ensemble de l'économie du centre-ville de Chambault.
Oui, l'université, en gros, c'est développement durable, c'est correct. Mais par contre, il y a l'usine Total, le conglomérat Total, qui a donné une subvention à l'Université de Sherbrooke. Les étudiants étaient contre, mais ça a passé pareil. Et puis, je sais que vous avez lu de quoi Total est-elle la somme, là.
Oui.
Puis aussi, je sais que vous aimeriez ça parler aux étudiants ici. Je vais aller voir CVES, C-E-V-E-S, pour leur suggérer de vous rejoindre, là. Et puis, par ailleurs... Justement, comment s'opposer? Parce que les prochaines élections, le projet de loi 69 va être passé. Là. Je ne sais pas si on va pouvoir
annuler. Il n'est pas fait encore. Hein? Moi, je pense qu'il ne faut pas, là, pour l'instant, c'est sûr qu'ils sont majoritaires. J'ose espérer que les oppositions, ils sont trois, là, vont, on appelle ça filibuster.
Ah, okay.
Donc, prendre du temps, parce que la seule chose que les oppositions contrôlent, c'est le temps.
Okay.
Il faut qu'ils le fassent sur deux projets de loi parce que la CAQ peut passer un baillon, donc un projet de loi, là, le passer, on a fait, sans faire toutes les démarches jusqu'à la fin là, de l'étude en commission parlementaire, ils peuvent faire ça pour un seul projet de loi. Donc, il faudrait qu'ils bossent au moins deux projets de loi. Ils ont des outils dans leur sac, les oppositions, pour empêcher ou tenter en tout cas d'empêcher l'adoption de ce projet de loi-là. J'espère qu'ils feront des efforts dans ce sens-là et non pas juste quelques petits amendements qui passeront pas parce qu'ils n'ont pas la majorité là, autour de la table, mais qu'ils vont utiliser le temps, là, à chaque amendement, ils peuvent utiliser du temps supplémentaire, etc. Donc, qu'ils feront ce travail-là, qui est un travail qui est un peu fastidieux, qui est demandant, mais moi, je l'ai déjà fait pour un projet de loi sur les mines là, face aux libéraux, et ça se fait. J'espère qu'ils le feront, parce qu'une opposition là, très, très importante de l'ensemble des groupes de la société civile, sauf les chambres de commerce, et là, c'est pas trop surprenant qu'on voit que les chambres de commerce sont tristes de la démission de Fitzgibbon, parce que très clairement, il avait un parti pris pour favoriser des intérêts privés au détriment du bien commun, malheureusement.
Mm-hmm. Parce que sa conception de la prospérité était plutôt capitalisme extrême que genre une belle qualité de vie écologique et pacifique pour tout le monde.
En fait, pour lui, la prospérité, c'était pas la prospérité collective.
Ouais.
C'est pas la prospérité du peuple. C'est la prospérité des grosses corporations. Et ces grosses corporations-là, malheureusement, elles ne travaillent pas pour le peuple. Elles travaillent qu'à s'enrichir de plus en plus en mettant tout dans les paradis fiscaux. Et même quand elles sont multi-milliardaires, c'est jamais assez. Ils sont toujours en train de siphonner, je dirais même de saigner les gouvernements en en demandant toujours plus sous des faux prétextes, en ayant des gens comme Fitzgibbon, comme François Legault à la tête des gouvernements qui sont des complices, dans le fond.
Mm-hmm. D'accord. J'espère que le projet de loi va être filibusté. Busté.
Filibusté, quoi. C'est un terme un peu qu'on utilise, nous, là-bas. Mais moi aussi, j'espère qu'il sera filibusté. Et je pense qu'ils ont beaucoup d'atouts qu'ils peuvent utiliser, là, parce qu'il y a tellement d'éléments dans ce projet de loi-là. Donc, ils ont beaucoup de matière pour pouvoir filibuster ce projet de loi-là. Et moi, c'est certain que s'ils ont besoin, là, je suis prête à apporter ma collaboration à ça avec très grand plaisir.
D'accord, merci. Et j'aimerais ça aussi qu'on ait un véritable débat sur l'énergie. Et puis,
oui.
Puisqu'il y a aujourd'hui des fermes d'énergie et de nourriture en même temps, il faudrait que le débat implique directement ou indirectement toute la question agricole. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Ben oui, il faut regarder l'ensemble des éléments parce que on a des questions à se poser au niveau de l'agriculture. Comment veut-on continuer l'agriculture au Québec? Et si on veut faire plus de fruits et de légumes, ben il faut penser aux serres. Et donc, quel genre de propositions on pourrait avoir pour développer plus l'agriculture au Québec, pour avoir une plus grande diversité encore d'aliments et que ce soit rentable pour les différents agriculteurs, parce que là, actuellement, c'est comme ça que les éoliennes réussissent à s'implanter, parce que en offrant d'alléchantes conditions, mais il faut être prudent, parce que ce qu'ils offrent, des fois, c'est un peu ratoureux, mais il faut que les agriculteurs puissent avoir des revenus qui sont intéressants, comme ça, et s'assurer de protéger les terres agricoles, puis arrêter de faire des développements éoliens ou autres sur les terres agricoles.
Oui. Et en soutien que la recommandation 42, je pense, du rapport Prenevot, qu'il y a au moins deux syndicats d'agriculteurs, ça se passe, là? Mais ça, c'est...
Oui, ça, c'est une toute autre question. Oui. C'est un grand débat.
Oui.
Moi, je pense qu'il doit avoir une certaine diversité, mais actuellement, c'est pas juste l'UPA, c'est pas juste une question de syndicat. Il y a aussi des questions. On a certains secteurs agricoles qui sont gérés avec des quotas.
Mm-hmm.
Donc, il faut regarder l'ensemble de cette question-là. À ce stade-ci, je n'ai pas de solution pour ce qui est des justement de la multiplication de la diversité syndicale en agriculture, mais je sais qu'il faut qu'on favorise les fermes biologiques, qu'on favorise les fermes qui sont avec des circuits courts, qu'on favorise la diversité. On parle maintenant de permaculture. Donc, c'est toutes sortes de nouvelles pratiques qui ont été développées pour faire de l'agriculture qui est économique, mais avec moins de surface et moins de gros équipements, ce qui permet des économies. Je pense qu'il y a plusieurs choses à regarder. Je pense qu'on serait dû pour une grande révision, aussi un grand débat, je dirais, oui, énergétique, mais du côté de l'agriculture aussi.
OK, d'accord. Bien sûr, ça, je vous remercie beaucoup, Mme Ouellette, qui est chef de Climat Québec. Merci de nous faire prendre conscience du problème de la privatisation du bien commun au Québec. Alors, bonne journée
et
bonne chance à nous tous et toutes.
Bien, merci, puis ça me fait plaisir.
Merci beaucoup, à moi aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Oui.
Alors, bonjour, Mme Ouellette, vous êtes chef... OK, excusez-moi. Bon, alors, c'est Claude ici pour À nous le futur, et je spécifie À nous le beau futur. Et il est 11h47, et en 3 minutes, je pourrais vous parler de 2 petits livres là, intéressants. Il y en a un qui s'appelle David Le Breton. L'auteur est David Le Breton. Le titre, c'est « La fin de la conversation, point d'interrogation, la parole dans une société spectrale ». Je vous lis tout simplement une phrase à la page 115. « La marche est un acte de résistance civique, privilégiant la lenteur, la disponibilité, la conversation, la curiosité, la gratuité, l'amitié, la générosité, autant de valeurs opposées aux sensibilités néolibérales qui conditionnent désormais nos vies. » Alors, le titre, c'est « La fin de la conversation ». Et puis, il vient d'être question d'amitié. Ça me rappelle qu'à la grande nuit de la poésie, il y a eu une enfant de 3e année qui a fait un poème sur l'amitié. Je trouvais ça vraiment, c'était touchant. Puisqu'il y avait aussi été question d'écologie, ne pas raser les forêts, ce qui est très important, d'éco-anxiété, mais de louer l'amitié. Et aussi, il y avait loué la lecture, une enfant de 4e année. C'est merveilleux. Alors, un autre livre... Justement, ça s'appelle « Défendre le logement, nos foyers, leurs profits ». C'est Éco-Société. Tout simplement, je vous donne 2 aspects de la table des matières. Premièrement, le résidentiel et politique. Ensuite, l'aliénation résidentielle. Et enfin, pour un droit radical au logement. Alors, essayez de lire ça. 2 petites bonnes nouvelles entre-temps. Le Forum des maires, actuellement, le 30 septembre, il y aura un sommet sur le futur des villes. Et on va parler de dialogue sur la paix, le 30 septembre, justement, au local H200. Je pense que c'est à Vienne. Alors, voilà la seule bonne nouvelle que je peux vous donner pour cette semaine. Et puis, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Préparez-vous un bon dîner. Je suis désolé, chère radio CFAQ, j'ai pas pu vous faire de la publicité, mais les gens vont apprécier, ils vont continuer à écouter. Et puis vous-même, là, chère personne qui est à l'écoute,
Je fais cette émission, ça fait déjà une bonne 55 émissions que j'ai faites. Alors, je vais m'efforcer de dire ce que je n'ai pas déjà dit. Mais de votre part, ça va vous demander d'écouter les 55. Et puis, de ma part, ça va me demander de mettre qui était interviewé dans les 55, parce que je n'ai pas fait ça. C'est une manque de compétences radiophoniques qui peut arriver. Alors, merci beaucoup, Claude Saint-Jean, pour nous le futur. Bon appétit. À la prochaine. Au revoir.